VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, Abdourahman Diab pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel. On est mardi 23 mai 2017 au sommaire. Un Africain à la tête de l'OMS, une première dans l'histoire de cette agence des Nations Unies. Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire renoue avec la violence. Trois ex-rebelles tués, une dizaine blessés lors d'une manifestation. Deux casques bleus tués à Agueloc dans l'extrême nord du Mali. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump lance son nouvel appel à la paix au Proche-Orient, demandant Israéliens et Palestiniens de prendre les décisions difficiles. Les autorités britanniques donnent l'identité de l'auteur de l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vient d'être élu directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le premier Africain à diriger cette institution. Il a battu au troisième tour David Nabarro, le Britannique. Le point donc avec Bagassi Koura.
L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, âgé de 52 ans, a battu au troisième tour le Britannique David Nabarro par 133 voix contre 50 et deux abstentions. 185 pays ont pris part au vote à Genève en Suisse. Dr Tedros, qui a été activement soutenu par les pays africains, est un ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères. Il est connu pour avoir réduit de façon significative le taux de mortalité lié au sida, au paludisme et à la tuberculose en Éthiopie lorsqu'il était ministre de la Santé entre 2005 et 2012. Il a été élu face au Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nishtar.
En Côte d'Ivoire, des affrontements entre forces de l'ordre et des ex-rebelles démobilisés ont fait trois morts et une dizaine de blessés à Boaké. Plus de détails avec notre correspondante sur place, Narita Namasté.
Ces affrontements se sont déroulés au corridor sud de Boaké, assiégé depuis lundi par des ex-combattants qui réclament le paiement de primes à l'instar d'un contingent de 8400 ex-combattants réintégrés dans l'armée après la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Trois personnes ont été tuées lors de cet affrontement à Boaké, entre policiers et ex-rebelles démobilisés qui bloquaient l'entrée de la ville. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité indique que certains des manifestants armés ont découpillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein. Le bilan officiel selon le gouvernement fait état de trois personnes tuées suite à des éclats de fragments de grenades et 14 blessés dont 4 cas graves. Aussi, l'on enregistre du côté des forces de l'ordre trois éléments de la gendarmerie et deux éléments de la police qui ont été blessés par des projectiles. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Les casques bleus déployés dans le nord malien, de nouveau ciblés par une nouvelle attaque. Tôt ce matin, une patrouille des soldats tchadiens de la MINUSMA est tombée dans une embuscade dans la zone d'Agueloc. Bilan, deux casques bleus tués et un blessé. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Agueloc redevient la zone des terroristes parce qu'ils contrôlent toutes les routes principales de cette localité dans laquelle ils appliquent la loi islamique ou charia. Illustration, la lapidation il y a deux semaines d'un couple. C'est pour cela que la patrouille pédestre de la MINUSMA n'a pu échapper à l'embuscade tendue vers 6h du matin à 5 km d'Agueloc dans la région de Kidal. Dans cette énième attaque, deux casques bleus ont été tués et un blessé. La MINUSMA a aussitôt envoyé une force d'intervention rapide sur les lieux de l'attaque et procédé à l'évacuation du blessé et des défunts. Cette attaque, selon la force onusienne, s'ajoute à une vague de violence qui, au cours des dernières semaines, a ciblé sans distinction les populations civiles, les forces armées maliennes et les forces internationales. Il faut signaler que le Tchad est la seule force étrangère qui a perdu plus de soldats au Mali depuis le début de l'opération Serval en 2013. Bamako, Kassi. Sim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, le président Paul Biya a publié enfin le rapport d'enquête sur l'accident ferroviaire d'Esseka en octobre 2016 qui avait fait près de 80 morts. La société Cambrai est déclarée principale coupable du déraillement. Le rapport met en cause la vitesse excessive de 96 km/h au lieu des 40 km/h. En cause aussi la défaillance du système de freinage, la surcharge des voyageurs dans le train ce 21 octobre 2016 et la rallonge des rames. Le rapport d'enquête de la présidence de la République du Cameroun annonce d'éventuelles poursuites judiciaires et le déblocage d'une somme d'un milliard de francs CFA comme assistance complémentaire du gouvernement camerounais aux victimes et autres ayant droit. Le parquet de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi qu'il enquêtait sur l'implication présumée d'un député de l'opposition dans les violences qui secouent depuis septembre la région du Kasaï. Les violences ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Le quotidien américain New York Times a révélé que Zaïda Catalan, un des deux experts de l'ONU tués dans le Kasaï, détenait un enregistrement sonore du député Clément Kankou en conversation téléphonique avec un des présumés auteurs des massacres au Kasaï. Les rebelles sud-soudanais ont rejeté l'appel au dialogue lancé hier par le président Salva Kiir. Dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, ils disent douter de la sincérité du chef de l'État. Ils acceptent néanmoins le cessez-le-feu unilatéral annoncé par le président Kiir. La guerre civile qui a démarré en 2013 a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Le chef de l'opposition zimbabwéenne Robert Morgan Tsvangirai promet l'immunité au président Robert Mugabe s'il prend sa retraite politique immédiatement. Il a fait cette déclaration lors d'un rassemblement de l'opposition qu'il essaye de regrouper dans une coalition en vue des prochaines élections prévues l'année prochaine. M. Tsvangirai a tout de même déclaré que Robert Mugabe a fait quelques actions positives pour le pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé ce soir à Rome, en Italie, pour une rencontre avec le pape. Un peu plus tôt dans la journée, il avait appelé Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix, sans préciser comment il s'y prendra. Le point avec Idriss Fall.
Donald Trump a rencontré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Puis ce mardi, il a été reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem, en Cisjordanie occupée. M. Abbas lui a de nouveau exposé de vive voix le rêve palestinien d'un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est et vivant aux côtés de l'État d'Israël dans la sécurité et la paix. M. Trump a déclaré que les deux parties feront face à des décisions difficiles, ajoutant qu'avec la détermination et les compromis, que la paix est possible. M. Trump s'est gardé d'évoquer la solution dite à deux États. Il ne s'est pas prononcé non plus sur des questions concrètes comme les colonies juives, les frontières ou le statut de Jérusalem, encore moins sur sa promesse de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il a simplement assuré qu'il fera tout son possible pour aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix qui n'est pas au rendez-vous depuis 70 ans.
Le président Donald Trump, qui sera reçu donc demain au Vatican par le pape François. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés, dont plusieurs enfants, lundi soir à l'issue d'un concert d'Adriana Grande à Manchester en Angleterre. Le point avec Nathalie Barche.
AMAC, l'agence de propagande du groupe ultra-radical, a revendiqué l'attaque sur les réseaux sociaux. La puissante explosion a eu lieu à l'une des entrées de la Manchester Arena, une salle d'une capacité de 21 000 personnes, à la fin du concert de la jeune chanteuse américaine Ariana Grande. Des milliers d'adolescents et d'enfants ont fui les lieux dans la panique. Selon la police, l'auteur de l'attaque est mort en faisant détonner un engin explosif. L'attentat a eu lieu 2 mois après celui de Londres qui avait fait 5 morts. Un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule et poignardé un policier avant d'être abattu près du Parlement. Cette attaque avait été également revendiquée par le groupe État islamique qui menace de lancer d'autres attaques.
Nathalie Barger, puis la police britannique a donné l'identité de l'auteur présumé de l'attentat. Il s'appelle Salman Abedi, âgé de 22 ans et un citoyen britannique né en Libye. Les enquêteurs russes ont effectué des perquisitions au domicile et dans le théâtre à Moscou d'un célèbre metteur en scène dans le cadre d'une enquête concernant le détournement de fonds publics. Selon le comité d'enquête, ces perquisitions sont liées à une affaire de détournement présumé entre 2011 et 2014 de 200 millions de roubles, soit environ 3,1 millions d'euros aux taxes actuelles, au taux actuel alloué par l'État pour développer les arts en Russie. La police brésilienne a arrêté aujourd'hui un conseiller du président Michel Temer et deux anciens gouverneurs soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de corruption lié aux travaux du stade de football de Brasilia, le plus cher du mondial 2014. Au total, 10 personnes ont été interpellées. Les autorités soupçonnent une surfacturation monstre de 900 millions d'environ donc 380 millions de dollars pour les travaux du stade Mané Garrincha de Brasilia. Au Venezuela, les partisans du président Maduro ont défilé à Caracas pour la paix alors que l'opposition proteste depuis début avril pour exiger son départ. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée par John Linden.
La Banque africaine de développement et le Japon ont signé un nouvel accord de 300 millions de dollars pour renforcer le secteur privé en Afrique. Ce financement porte à 1,5 milliard les engagements du Japon aux côtés de la BAAD. En 2016, à Nairobi, au Kenya, l'Empire du Soleil Levant s'est engagé à injecter jusqu'à 3 milliards pour le développement du secteur privé africain. Le Nigeria a reçu un prêt de 500 millions de dollars dans le cadre du programme d'investissement social. Ce financement accordé par la Banque mondiale sera remboursé sur 3 ans. Sur une population de plus de 180 millions, environ 53 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. L'Allemagne a une nouvelle fois mis la pression sur le Zimbabwe pour verser des indemnités aux fermiers allemands dépossédés de leurs terres à la suite de la réforme agraire de Robert Mugabe. Mais Harare évoque des difficultés financières pour prouver sa bonne foi. En 2000, le gouvernement a saisi en 3 ans 90% des terres appartenant à la minorité blanche du pays pour corriger les inégalités dans l'accès aux terres agricoles.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Historique pour la Guinée à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Les jeunes du Sili National ont fait match nul un partout face à l'Angleterre. C'est le premier point décroché par le pays dans l'histoire de la compétition. La Guinée qui lave la défaite infligée par le pays organisateur, la Corée du Sud, 3-0 lors du premier match. Les Sud-Coréens qui battent l'Argentine de 2-1, match nul 0-0 entre le Mexique et l'Allemagne. Et le carton de la journée, les Vénézuéliens ont giflé le Vanuatu 7-0. À suivre demain, côté africain, la Zambie qui affronte l'Iran et l'Afrique du Sud contre l'Italie.
L'UEFA se veut rassurante pour la finale Manchester United-Ajax d'Amsterdam malgré l'attentat de Manchester.
Oui, la finale de l'Europa League aura lieu demain à Stockholm. Elle s'annonçait comme une belle fête sportive. Elle a pris une autre tonalité après l'attentat meurtrier qui a touché la ville mancunienne. L'UEFA s'est déclarée sous le choc après l'attentat, mais s'est voulue rassurante à la veille de cette finale. Il n'existe actuellement aucun renseignement spécifique qui pourrait suggérer que l'une des activités de la finale à Stockholm puisse être la cible d'attaque, a ajouté l'instance européenne du football. Quant aux joueurs de Manchester United, ils ont tenu à faire une minute de silence dans leur centre d'entraînement ce mardi matin. Avant de s'envoler pour la Suède, il devrait arborer un brassard noir sur le terrain demain soir. Quant au coach de Manchester United, José Mourinho, il a confié sur Twitter que ses joueurs étaient très tristes après les événements tragiques de la nuit dernière. Mais dans un autre tweet, il a souligné qu'il y avait un travail à faire, c'est-à-dire jouer la finale de l'Europa League et l'emporter.
Et puis en NBA, le final de la conférence Ouest, Golden a déjà gagné après 4 matchs.
Ah oui, il n'y a pas eu de suspense. Les Golden State Warriors, les champions NBA 2015, se sont qualifiés pour leur 3e finale consécutive après leur victoire contre San Antonio, 129-115. Les Warriors, menés par Stephen Curry, auteur de 36 points, et Kevin Durant, auteur de 29 points, ont remporté la finale de la conférence Ouest 4-0. Golden State préserve ainsi son invincibilité depuis le début de ses playoffs. Les Cavaliers de Cleveland, qui mènent 2-1 face aux Celtics de Boston, auront la possibilité de faire le break ce soir lors du 4e match qu'ils joueront dans leur salle.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Depuis plus d'une semaine, une bonne partie de la ville de Lubumbashi connaît une pénurie en eau potable sans une explication claire de la part de la Régie des Eaux, société qui fournit l'eau potable. Reportage sur place de Narval Mabila.
Il y a presque une semaine.
On part chercher par-ci, par-là. Là, on va trouver. Puis, il y a de l'eau en plus. D'ailleurs, je vois que là-bas, il n'y a pas d'eau. Faut qu'on part là-bas encore. On cherche partout.
Oui, on paye. Je regrette beaucoup parce qu'on paye. Par jour, il faut dépenser 500 francs. Il faut payer encore. Pour amener ça à la maison, il faut encore payer.
On est en train d'observer toujours les bidons jaunes ici, par-ci, par-là, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et surtout que nous sommes pendant la période de la saison sèche où il y a différentes maladies d'ordre sanitaire qui peuvent surgir, et telles que les choléra. Et comme nous le savons tous, Kamalondo, Kenya sont les bassins de ces fléaux-là.
Ceux-ci sont des témoignages de loucheuses qui ont vécu plus d'une semaine sans qu'une goutte d'eau potable ne coule au robinet de la Régie des Eaux, fournisseur exclusif en eau potable, qui n'a donné aucune explication à ses abonnés face à cette pénurie qui a touché les trois quarts de la ville de Lubumbashi. Nous avons contacté la direction provinciale de la Régie des Eaux, où le directeur a refusé tout commentaire et nous a renvoyé à la Société nationale d'électricité et nous a demandé de nous référer à un communiqué de presse publié à peine. Du côté de la société civile, la situation est très préoccupante, nous dit Maître Kaloua, président de la société civile du Haut-Katanga.
C'est pour nous une préoccupation. L'eau en soi constitue un besoin fondamental de la communauté. C'est un droit. On doit avoir l'eau et c'est lié à la vie même de la personne. Quand il y a par exemple interruption de fourniture d'eau qui est observée depuis ce mardi, ça devient pour nous une préoccupation très 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 fondamentale en tant que société civile parce que nous estimons que ça a des répercussions directement sur la santé de l'être humain, de la population, car sans l'eau, il n'y a pas la vie. Donc nous déplorons aussi en tant que société civile et profitons de cette occasion pour demander aux autorités d'intervenir afin que la situation puisse être rétablie parce que si tel n'est pas le cas, il y aura notamment de maladies diarrhéiques.
Malgré les promesses de rétablissement en fourniture d'eau potable, la situation semble n'est pas très stable, comme nous dit une habitante de la commune de Kamalondo.
Depuis qu'il y avait coupure d'eau, la fourniture d'eau n'est pas stable. On peut avoir de l'eau même 2 heures du temps, ça repart, ça revient. On peut avoir de l'eau même 3 heures du temps. Mais comme aujourd'hui, le lundi, c'est depuis le matin qu'on n'a pas de l'eau au robinet jusqu'à 7 heures.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
On reste sur cette question de pénurie d'eau. Donc, face aux pénuries incessantes d'eau potable dans les quartiers de Brazzaville, les autorités annoncent une réforme de la Société nationale de distribution d'eau. Et pendant ce temps, les populations, elles, continuent de faire face aux pénuries récurrentes d'eau de Brazzaville. La correspondance de Nguela Ngoussou.
L'eau potable est devenue une denrée rare dans les quartiers de Brazzaville. Il faut attendre tard dans la nuit pour voir couler le liquide vital. Dans les quartiers périphériques comme Mfilou, les populations vont s'abreuver dans les marigots et les sources.
On parcourt des grandes distances telles qu'à Mambou là-bas. À Mambou, il y a un peu des sources naturelles pour aller puiser de l'eau, pour aller laver des habits. Bon, c'est pas potable, c'est pas traité. Ça coule seulement à l'air libre. Ça fait beaucoup de difficultés. Vu le nombre que nous sommes dans le quartier, c'est un peu difficile.
Bon, les questions d'eau dans le quartier, c'est un colonel qui nous a soulagé quand même. Il nous a mis un forage que la population de cette zone se ravitaille pour l'eau.
L'eau, c'est encore un casse-tête. Le jour où vous savez qu'il y a de l'eau, c'est quand ça coule hasardeusement dans la rue. C'est plutôt les fuites d'eau que nous déplorons.
À Batignol, non loin de l'aéroport international de Mayamaya, où il y a un imposant château d'eau, mais les consommateurs doivent débourser de l'argent.
On va dans les forages, il y a beaucoup de forages ici. Ah, quoi faire si on n'a pas l'argent? Comme l'eau, c'est l'autre, là, c'est la vie. On est obligé de payer.
Pour Mermous Babunga de l'Observatoire congolais des droits du consommateur, la qualité de l'eau servie par la Société nationale, la SNDE, laisse à désirer.
On ne peut pas concevoir qu'une eau qui puisse traîner des débris et des têtards ne puisse pas avoir des problèmes de potabilité. Tout le bimestre, ils ne reçoivent l'eau que pendant 2, 3, 4 jours, vers la période où la SN2 distribue les quittances. On dit aux consommateurs de ne pas payer, parce qu'on ne paye que la prestation qui a été fournie et qu'on a consommée.
L'État investit pourtant énormément dans la production et la distribution d'eau potable. Deux usines fonctionnent correctement à Brazzaville. Des efforts encore très insuffisants, reconnaît le Premier ministre Clément Mwamba.
Et la quantité d'eau qui est offerte est insuffisante par rapport à la demande. Donc ça, c'est un problème. C'est terminer les discours de la plainte. Il s'agit d'aller aux mesures.
Les organisations de la société civile, elles, attendent le gouvernement au tournant. Trésor Ndilakende, acteur de la bonne gouvernance.
Il est de la responsabilité du Premier ministre d'engager des vraies réformes. Il ne faut pas que ça soit un effet médiatique pour distraire les gens, mais le moment viendra où on fera l'évaluation.
Dans les villages, un programme Eau pour tous qui a coûté 194 milliards à l'État doit encore montrer son impact. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Vous êtes sur VO Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Au Tchad, le Haut Conseil de la communication, l'organe de régulation des médias, suspend la carte d'identité du journaliste professionnel pour 3 mois. Pour le HCC, la carte est détenue de façon illégale et anarchique par des personnes qui n'ont rien à voir avec le métier. Réaction des organisations professionnelles des médias dans ce reportage d'André Colmajingar.
Tchad, le métier de journaliste est devenu un refuge pour tous ceux qui ont échoué ailleurs. Il suffit d'écrire un article publié dans un journal ou d'être un stagiaire dans une station radio ou télévision ou encore d'être un chauffeur d'une entreprise de presse. Ça y est, on a droit à une carte de journaliste professionnel.
La carte de journaliste est devenue banale au Tchad. Aujourd'hui, vous pouvez trouver cette carte avec des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, des gens qui font des renseignements généraux, etc. Et cela est une grave menace pour le professionnalisme dans notre pays.
Célestin Topona, vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad. Pour lui, il faut appliquer l'article 5 de la loi 17 du 31 août 2010 relative au régime de la presse au Tchad.
Il est dit dans ces textes que ne peut être considéré comme journaliste professionnel quelqu'un qui travaille effectivement dans un organe de presse, audiovisuel ou presse écrite, et qui vit essentiellement de cette activité. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le personnel administratif n'est pas journaliste. Le personnel technique n'est pas journaliste. Les plantons, les chauffeurs, beaucoup de ces personnels détiennent la carte du journaliste professionnel. Il faudrait que, à ce niveau-là, les professionnels eux-mêmes acceptent qu'on puisse assainir leur secteur.
Pour le président de l'Union des journalistes tchadiens Belngar Larmin et la guerre, si les personnes étrangères au métier détiennent la carte d'identité du journaliste professionnel, cela relève de la responsabilité de la commission chargée de la délivrance de ce document logé au sein du ICC.
Et cette commission qui délivre en fonction des critères bien définis. Nous ne comprenons pas par quel miracle certaines personnes étrangères au corps détiennent cette carte. Mais si déjà, au niveau de cette institution, les gens sont réveillés pour dire « Écoutez, il y a un problème et qu'il faut revoir », je crois que c'est un début de solution que nous devons tous nous en accaparer pour mettre pression et orienter les actions pour amener les journalistes à travailler dans les normes.
Le premier rapporteur du Haut Conseil de la communication, Lauro Gondje, indexe plutôt les chefs d'entreprise de presse d'être à l'origine de ce désordre.
C'est eux qui dressent la liste des journalistes, leur rédaction pour envoyer. Si c'est par mégarde, ils insèrent des noms des gens qui ne sont pas du corps, je crois que c'est leur responsabilité. Nous voulons tout simplement assainir le milieu et en le faisant, je crois que c'est de bonne guerre.
Le secrétaire général de l'AEPT, Association des éditeurs de la presse privée du Tchad, Samouri Ngaradoumé, reconnaît qu'il y a des brebis galeuses, qu'il faut les extraire le plus rapidement possible.
Si le HCC reconnaît qu'il y a des rédactions qui ont remis des noms qui ne sont pas en règle avec nos principes et qu'ils ont eu à déceler cette machination, vraiment c'est salutaire pour nous.
André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Pour terminer, retour sur l'attentat terroriste qui a fait 22 morts et 59 blessés à Manchester. Plusieurs enfants figurent parmi les victimes et la communauté africaine de Manchester se dit aussi choquée, mais certains craignent d'éventuelles représailles. Jacques Aristide a recueilli le témoignage de Damien Malumalu. Il est administrateur du site Congo Manchester qui se trouvait dans les environs hier soir. On écoute Damien Malumalu.
C'était la peur et la désolation. J'étais personnellement désorienté, je ne savais pas où aller. J'essayais de contacter des amis parce que je savais qu'il y a mes proches amis qui se sont rendus au concert, mais personne ne pouvait prendre le téléphone. Donc la seule solution pour savoir, c'était aller dans les médias, mais malheureusement, l'information n'était pas là. Donc c'était la peur et la panique générale. Moi-même, j'étais trop paniqué parce que j'étais au parage vers 21h.
L'attentat a été perpétré à l'occasion d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande. Le terroriste a-t-il délibérément visé des enfants sans défense?
Exactement, parce qu'il savait bien que c'était les enfants qui étaient pleins dans la salle, donc il savait qu'ils sont les enfants qui seront victimes.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attentat. Pensez-vous que personne n'est à l'abri des atrocités de ce groupe?
Je crois que c'est difficile d'être à l'abri, vu que Manchester, l'Angleterre, c'est un pays cosmopolitain où tous nous vivons ensemble et tout le monde est bien accueilli. La police n'est pas armée parce que nous vivons ensemble. Ce n'est que l'effort communautaire qui peut un peu décourager les groupes, mais c'est vraiment la panique générale.
Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont suspendu leur campagne en vue des législatives du 8 juin, qui a pour enjeu le Brexit. Cette attaque aura-t-elle un impact?
Bien sûr, les sondages derniers montrent que Jeremy Corbyn, qui était un peu à l'écart, donc la victoire était déjà réclamée du côté de Theresa May. Mais avec ce qui s'est passé, que la sécurité du pays est encore mise en question. Je crois qu'il y aura un impact très important aux élections. Sans vous le cacher, d'autres gens déjà commencent à parler du revanche. Il y a déjà une sorte de xénophobie chez certaines personnes. Jusque-là, on est sous le choc. Mais d'un moment ou à l'autre, on ne sait pas le sentiment des citoyens. Ils peuvent rejeter les étrangers.
Comment réagit la communauté africaine de Manchester?
La communauté africaine de Manchester est dans un état de choc. La peur aussi. Bien que les Africains souvent ne sont pas mêlés à ce genre d'atrocités, les étrangers ont souvent causé du tort à ce pays. Et quand des choses comme ça se passent, personne n'est à l'abri comme étranger. Vous sentez la peur, vous ne savez pas si vous allez être. C'est pour la première fois que nous voyons des militaires armés qui passent, quelque chose qu'on n'a jamais vu.
C'était Damien Malumalu, joint à Manchester par Jacques Aristide.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est sur ce joli titre de Fally Ipupa, Yangoyo, que nous allons nous quitter. C'était un choix de Michel Joseph, qui a d'ailleurs réalisé cette édition. À la console, il y avait Wojtek Zorniak, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir. Let go.